Alors c'est clair que c'est une problématique inhérente à ce qu'on peut justement appeler la numérisation de notre société. Nous générons tous les jours une quantité extraordinaire de données et nous maîtrisons plus ces données. Nous savons souvent pas qui les regarde, qui a accès, ce qui en est fait, etc. Donc il y a là une sorte de transparence de plus en plus importante qui est en train de se développer. Et ce même phénomène, bien sûr, s'applique aussi au monde de l'agriculture. Très souvent, aujourd'hui, si on revient à l'exemple, par exemple, des tracteurs autonomes, ces tracteurs autonomes en temps réel communiquent des données, transmettent des données, par exemple, à des entreprises qui les vendent, John Deere en est un exemple, qui, eux, ensuite vont les accumuler, vont les analyser et par là vont ensuite optimiser leurs services. Donc on achète pas seulement un tracteur, mais on achète aussi avec le tracteur un service. Donc on se met aussi dans une quelque sorte une situation de dépendance vis-à-vis justement de cette entreprise. Donc cette transparence, c'est pas seulement une question de se faire priver, mais c'est aussi une question de pouvoir, de dépendance. Qui peut agir sur qui? Qui a quel type d'autonomie?
Les intelligences artificielles sont des machines, et qui dit machine, ça dit parfois des bugs.
Bien sûr, ça implique des nouvelles vulnérabilités, hein, si ce système tombe en panne, et l'expérience montre que les drones tombent tout le temps du ciel, d'autres technologies aussi, on le sait tous aussi quotidiennement, hein, on est tous justement des utilisateurs aussi de technologies numériques, et puis le nombre de fois que je dois aller réparer mon smartphone, etc., ben, on le connaît tous. Donc ça crée aussi des nouvelles vulnérabilités, et puis si on imagine un moyen ou un mode de production agricole qui est de plus en plus dépendant de ces technologies, ces vulnérabilités-là soulèvent des grandes questions.
Alors aujourd'hui, il y a certains paysans qui tentent de revenir à une agriculture d'antan, hein, sans machines, sans produits chimiques. Est-ce que le smart farming ne donne pas une perte de savoir-faire, du coup ?
Mais pour moi, c'est vraiment pas une sorte de blanc ou noir. Hein. Donc, c'est pas soit smart farming, soit pas du tout de technologie. Souvent, ce qu'on voit, c'est justement un peu des chemins intermédiaires. Et on a fait des premières études avec justement des usagers de technologies numériques, comme justement ces tracteurs autonomes qui existent déjà en Suisse romande. Et puis, on a vu que finalement, l'usage est assez pragmatique. Donc, il n'y a pas une sorte de perte complète de savoir-faire ancien. Ça peut compléter des choses, ça peut offrir certains avantages, et si finalement les paysans qu'on a pu étudier, avec qui on a pu travailler, savent assez bien ou même très très bien utiliser ces nouvelles possibilités pour compléter l'existant. Donc pour moi, c'est pas une sorte de, on se met à la smart farm et puis on oublie tout le reste. Ça peut au contraire apporter un plus, mais tout ça, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas aussi des dangers inhérents à tout ceci dont on vient de parler avant.
Alors justement, en quoi c'est une bonne chose d'intégrer l'intelligence artificielle dans les fermes ?
Alors c'est une bonne chose parce que ça peut offrir plus d'efficacité, ça permet aussi, dans certains cas, d'être plus précis, plus ciblé, plus différencié. On a fait des études sur les drones d'épandage, par exemple au Valais, au-dessus des vignes, qui remplacent souvent l'hélicoptère. Donc les drones peuvent voler beaucoup plus bas. Donc les pesticides vont vraiment là où ils doivent aller, si on veut. Donc ils vont plus dans les jardins des habitations, etc. Donc là, c'est clairement quelque chose de positif. Mais on vient de parler de nouvelles formes de dépendance, de nouveaux problèmes en termes de sphère privée, vulnérabilité, etc., etc. Donc il y a toujours du pour et contre, et c'est justement le bon moment pour se poser toutes ces questions et pour aussi inviter les paysans, les paysannes à se les poser aussi, en quelque sorte.
Finalement, si on compare, si on prend le Canada, les États-Unis qui ont des champs gigantesques et tout plats, à la Suisse où les champs sont beaucoup plus petits et puis ils peuvent être vallonnés, pentus, est-ce que les fermes intelligentes ont leur place dans notre pays ?
Je pense effectivement, ce qu'on voit, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que c'était tout d'abord ces grandes productions qui se sont mises aux technologies intelligentes. Parce que l'usage en est plus simple. C'est clair, c'est plus simple d'utiliser des tracteurs autonomes sur un champ tout plat. Et aussi, donc ça c'est une chose, la simplicité d'usage. L'autre chose, c'est les coûts d'investissement quand même. Donc c'est quand même, les grandes productions ont d'autres moyens, ont peut-être aussi d'autres savoir-faire déjà accumulés, hein, beaucoup plus de gens qui peuvent intervenir. Maintenant, ça n'exclut pas qu'il y ait aussi en Suisse, à sa manière, dans des petites fermes, aussi des formes d'appropriation de ces technologies. Et peut-être même des nouvelles formes de collaboration, qu'on va se partager, par exemple un drone d'épandage, entre plusieurs paysans, plusieurs paysannes. Donc c'est pas exclu, mais je pense que le temps de s'y mettre, et voilà, on le voit clairement, ça prend un peu plus de temps, mais à l'avenir, je pense, je suis assez certain que ça va aussi encore se développer, proliférer en Suisse.
Francisco Clauser, professeur à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission ce matin. On vous souhaite une excellente journée.
Merci beaucoup à vous.